VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par les États-Unis. Le président américain Barack Obama a affirmé aujourd'hui qu'il n'existait pas à ce stade de preuves claires que l'attaque meurtrière perpétrée dans le club gay d'Orlando en Floride a été commanditée depuis l'étranger. Il semble que le tireur ait été inspiré par diverses sources d'informations sur Internet, a déclaré le chef de l'exécutif américain à l'issue d'une réunion à la Maison-Blanche avec, entre autres, le directeur du FBI et la police fédérale, James Comey, et le ministre de la Sécurité intérieure, Jay Johnson. Pour sa part, le groupe djihadiste État islamique a revendiqué dans un bulletin de sa radio officielle aujourd'hui la fusillade d'Orlando en Floride, commise par un soldat du califat qui a fait 49 morts, plus le tueur abattu par la police dans le club gay. L'auteur du carnage, l'Américain Omar Sadiki Martin, avait déjà fait l'objet d'enquêtes du FBI. Pourquoi était-il libre de ses mouvements? La réponse de Mark Elias, ancien chef de la police de North Miami, au micro de Timothée Donangmaï.
On doit essayer de comprendre quelque chose. Il y a des manches à suivre. Nous, les polices, comme les citoyens, on a des droits et des manches à suivre lorsqu'on fait une investigation. Il arrive qu'il avait toutes les licences et tout comme ça. On peut le suivre de près ou de loin, mais il n'y avait pas de raison pour qu'on prenne les armes ou bien on le met en état d'arrestation parce que les lois n'ont pas permis les FBI de faire ça. Ils ont mis tous leurs officiers en état d'alerte parce qu'on ne sait jamais ce qui peut s'arriver. Mais la police n'est pas dans tous les rues. Donc si quelqu'un veut faire quelque chose, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer le mieux qu'on peut avec l'aide de Dieu. Mais les citoyens également, si on voit quelque chose qui n'est pas bien placé, vous devez prendre le téléphone pour appeler la police.
Mark Elias, ancien chef de la police de North Miami en Floride. On passe à l'Afrique. Violence au Burundi. Nouvelle visite à Bujumbura de la mission d'experts de l'ONU qui enquête sur les violations des droits de l'homme dans le pays depuis le troisième mandat contesté du président burundais Pierre Nkurunziza. Cette mission, composée de 3 enquêteurs, restera sur place jusqu'à vendredi. À son programme, rencontrer tous les acteurs impliqués dans la crise qui a déjà fait plus de 500 tués et plus de 250 000 Burundais réfugiés dans les pays voisins. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Composé du Sud-Africain Christophe Hens, de l'Algérienne Maya Sarlib Fadel et de Pablo de Greiff, la mission des 3 experts des Nations Unies va évaluer pendant près d'une semaine les développements sur la situation des droits de l'homme au Burundi après la première visite effectuée en mars dernier. Le responsable numéro 1 de cette mission, Christophe Hens, en même temps rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, a indiqué qu'il va discuter avec les différents acteurs impliqués dans la crise. Les autorités burundaises seront consultées en plus des responsables des formations politiques, des membres de la société civile ainsi que des victimes de violations des droits de l'homme, sans oublier les agences des Nations Unies au Burundi. Pour Pablo de Greiff, rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, si une réponse adéquate n'est pas trouvée, les réalisations obtenues grâce à l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha pourraient être volées en éclats. Rappelons, une équipe de 6 spécialistes des droits humains est déjà sur place pour épauler les 3 experts qui vont visiter après le Rwanda et l'Ouganda, deux des pays de la région où se trouvent de milliers de réfugiés burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En RDC, 6 rebelles ougandais ADF de plus tués aujourd'hui lors d'un accrochage avec l'armée congolaise dans la région de Beni, en l'est du pays. Un soldat congolais également tué. 4 semaines après le lancement de l'opération dénommée Ou Salama, sécurité en français, contre ces rebelles qui sévissent au nord Kivu. La MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, promet un soutien continu sur le plan logistique et les forces armées congolaises font état d'un bilan à mi-parcours satisfaisant. Notre correspondant dans la région, Charlie Kassereka, était avec une délégation onusienne qui s'est rendue sur la ligne de front à Beni.
La moisson est satisfaisante selon les porte-parole de cette opération. L'officier Marc Azoukaï nous fait un bilan en mi-parcours d'une vingtaine d'ennemis neutralisés.
Satisfaction parce que le résultat est là. Nous avons réussi à neutraliser une vingtaine d'éléments intégristes islamistes de l'ADF. Nous avons récupéré quelques armes et aussi nous avons capturé 4 éléments, dont une femme âgée de plus ou moins 75 ans. Et il y a eu des rendus. Le travail se poursuit.
Cette reprise de collaboration doit produire encore plus et tous les moyens sont maintenant mis en jeu, a fait savoir dans une interview exclusive à la VOA le général Derrick Kengwebi, le chef de la force onisienne en RDC.
We support with the collection of intelligence.
Nous accompagnons cette opération dans la collecte de renseignements, transport de matériel sur la logistique et l'évacuation des blessés par nos hélicoptères. Mais le challenge ici est difficile car ici c'est une guerre asymétrique que nous livre l'ennemi. Et donc l'apport de toutes les forces vives et de la classe politique est la bienvenue.
La population dans la région souhaite voir aussi les acteurs politiques de la RDC faire de même, venir sur place et discuter avec elle sur la question de l'insécurité dans cette région. Gilbert Kambale coordonne l'une des plateformes de la société civile ici à Beni.
Ce que nous attendons, nous, c'est surtout les résultats finaux. La priorité première de la MONUSCO, c'est de protéger les civils. Et pourtant, les civils continuent à être tués. Et donc, il a justement un grand défi par les forces commandes. Nous voulions quand même rencontrer également le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies.
La rébellion d'islamistes et de ADF qui s'est installée dans cette région de Beni depuis plus de 20 ans a déjà fait plus de 1000 morts, tous des civils, selon la société civile dans cette province de l'Est et de la RDC. Des retours d'Erengeti dans la région de Beni, Charles Kasereka pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, un affrontement intercommunauté entre groupes armés dans la région de Tombouctou a fait 8 morts du côté des Peuls, 9 capturés et des motos, des véhicules saisis. Les incidents ont eu lieu dans le cercle de Gourma Raous et en même temps, un chef de village a été enlevé dans la région de Gao par des combattants qui se réclament de la plateforme, un groupe armé pro-Bamako. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Malgré le mois de Ramadan, qui devrait être une période plus calme, rien n'a changé sur le terrain au nord du Mali. Dans le cercle de Gourma Raous, précisément dans le secteur de Inadjatafane, des affrontements entre Peul armé et les Gatcha ont eu lieu à Tinahabou, entre Boni et Ndaki, dans la nuit du 11 au 12 juin 2016. Le bilan côté Peul est de 8 morts. 9 personnes ont été capturées, dont Abdraman Diallo est notable. 3 véhicules, 4 motos et des armes ont été saisi par les Gatcha. Ce site est situé dans la commune de Bambara Waoudé, à 90 km au sud-est de la même localité. Ces affrontements entre groupes armés font suite à des querelles de leadership autour des sites de cantonnement. La plupart des affrontements se passent entre les Gatcha et les fractions de la Compis 15, une sorte de dissidence de la plateforme. Au lendemain de cet affrontement, la journée du samedi a été marquée par l'enlèvement du chef de village de Boulkessi par des éléments qui se réclament d'un mouvement de la plateforme Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme ce lundi 13 juin. L'occasion de rappeler les situations dramatiques que vivent certains albinos sur le continent africain, en particulier en Afrique de l'Est. Au Malawi, par exemple, après une série d'assassinats d'albinos, la justice a interdit début juin à tous les sorciers et guérisseurs traditionnels d'exercer. Directrice de la Fondation Salif Keïta, Madame Kumba Kalou Keïta revient sur les menaces qui pèsent sur les personnes atteintes d'albinisme.
La situation en Afrique actuelle en ce qui concerne l'albinisme est très urgente, très grave, car il y a beaucoup de discrimination, persécution et même meurtre. Et dans certaines régions en Afrique de l'Est, on a vu jusqu'à 18 meurtres d'albinos depuis le début de cette année, depuis janvier au Malawi par exemple. Et en Tanzanie et au Burundi, c'est continuel. Et même il y a quelques semaines, on a parlé d'un corps mutilé qui a été trouvé au Mali, au nord du Mali, une personne atteinte d'albinisme. Donc c'est urgent qu'il y ait une mobilisation pour protéger ces personnes vulnérables.
Kumba Makalou Keïta, directrice de la Fondation Salif Keïta, au micro de Claire Morin-Gibourg. En Côte d'Ivoire, ajournement aujourd'hui du procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo, accusée de crimes contre l'humanité pendant la crise post-électorale de 2010-2011, qui a fait 3000 morts dans le pays. Le procès a été suspendu pour une semaine par la cour d'assises d'Abidjan, qui juge Madame Gbagbo depuis le 31 mai. Et ce, à la demande des avocats de l'accusée qui veulent étudier de nouvelles pièces versées au dossier. Les audiences reprendront le lundi 20 juin. Et pour terminer, en Afrique du Sud, la justice doit fixer aujourd'hui la peine d'Oscar Pistorius, reconnu coupable d'avoir tué sa petite amie en 2013. L'ancien athlète amputé des deux jambes risque en théorie une peine de 15 ans de prison minimum.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.